Alors, l'esclavage peut prendre plusieurs formes. L'esclavage peut prendre plusieurs formes. Mais laissez-moi donner simplement une définition logique de l'esclavage pour qu'on sache de quoi on parle. Par l'esclavage, j'entends l'institution par laquelle une partie identifiable de la société est systématiquement privée de sa liberté et forcée par le segment dominant de produire plus qu'il ne consomme pour que le segment dominant puisse consommer ne plus qu'il ne produise. L'esclavage dans ce sens-là a existé dans toutes les sociétés jusqu'au 19e siècle. Comme institution, j'ai dit bien l'institution. Alors nous savons très bien. Could you please close the door if there's nothing coming through? Okay. Ça me donne une minute de plus à la fin. J'essaie d'obéir à tout ce qu'il me dit. Ah. Non, je m'excuse, ce n'est pas pour en faire une histoire, mais c'est très difficile d'exprimer ses idées quand il a des distractions de cet ordre. Et je préfère ne pas tenter de le faire. Alors, nous savons que l'histoire de l'humanité est variée, qu'il a des hauts et des bas, il a des civilisations qui se sont développées au plus haut point et qui sont par la suite tombées en bas. Alors, c'est intéressant que la constante dans l'histoire, c'est l'esclavage. C'est-à-dire, à travers toutes ces hauts et bas, toutes ces fluctuations de l'histoire, alors, il y a une constante qui est l'esclavage. Deuxièmement, l'oppression de la femme, c'est la même chose. On ne connaît pas une société avant le 19e siècle. Maintenant, quand je dis avant le 19e siècle, je ne fais aucune affirmation à propos de ce qui existe maintenant, mais je me restreins jusqu'au 19e siècle pour être certain de ne pas être contredit. Okay? Alors, il y a aussi l'oppression de la femme. Nous ne connaissons pas aucune société qui ait existé avant le 19e siècle où la femme avait les mêmes privilèges et droits que les hommes. Encore une fois, comme l'esclavage a pris plusieurs formes, alors aussi, l'oppression de la femme a pris plusieurs formes. D'ailleurs, souvent les femmes étaient des esclaves. Malheureusement, les deux choses ne s'excluent pas. Parfois, cette oppression, comme Abdu'l-Bahá nous dit, était très physique. Et parfois, c'était moins physique, oppressivement. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que dans aucune société connue, est-ce que les femmes avaient les mêmes droits d'éducation que les hommes. La première femme professeure à la Sorbonne, c'était Marie Curie en 1899, n'est-ce pas? Les femmes suisses ont reçu la vote en 1972. OK? Donc, la notion que la femme, même, je vous dis une autre chose qui est encore plus choquante. Vous connaissez certaines, connaissez Mary Kay Radpour, qui est une de mes collaboratrices et qui a été membre du Cordillère depuis 15 ans. Elle vient de terminer cette année. Alors, vous savez, si vous le connaissez, que c'est un thérapeute de haute qualité, une femme extrêmement intelligente. En 1950 et quelques, à l'université d'Illinois aux États-Unis, on lui a refusé le droit de matriculer dans le programme de psychologie parce qu'elle était une femme. Elle a dû faire une maîtrise en éducation au lieu de faire une maîtrise en psychologie parce qu'ils ont dit, tu vas simplement prendre la place d'un homme qui est plus valable que toi, en fait. Ça, c'est aux États-Unis, il y a 50 ans, n'est-ce pas? Ou moins de 50 ans. Alors, quand est-ce que ça change? Eh bien, il y a deux dates clés. Pour l'esclavage, la première date clé, c'est 1861, c'est quand le tsar Alexandre II a décrété la fin de l'esclavage en Russie. C'était la première étape vers l'abolition par les autorités de gouvernement de l'esclavage. À ce moment-là, écoutez bien, 90% de la population de la Russie était en esclavage. 90%. Donc ça, c'était la structure de la société russe en 1861. Vous avez 90% en esclavage et vous avez un 10% d'aristocrates intellectuels vivant presque tous soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est la structure de la société russe. Et dans moins d'une génération après cela, Lénine et Staline ont rendu toute la Russie en esclavage de nouveau. Ils ont fait des esclaves de toute la Russie. Ça, c'est l'histoire de la Russie. Okay? 1000 ans d'esclavage, une trentaine ou quarantaine d'années avec une société comme ça, et ensuite, de nouveau, l'esclavage. Alors, une deuxième date, c'est 1863, et je veux juste dire qu'il ne faut pas penser que l'esclavage en Russie, par exemple, était plus tendre que l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Les serfs russes n'avaient aucun droit, ils n'existaient pas comme êtres humains, ils pouvaient être tués, mutilés, ils étaient la propriété absolue de leur maître. Ils n'avaient aucun recours devant la justice, etc. Et si vous lisez des romans de Dostoïevski, par exemple, et Tolstoï, et des romans courts de Tolstoï en particulier, ils parlent de ces choses-là. Alors, en 1863, bien entendu, il y a la déclaration d'émancipation des Noirs aux États-Unis par President Lincoln. Alors, qu'on veuille ou non, la Russie a eu 2 ans d'avance sur les États-Unis sur cette question. C'est un fait historique. Pour le moment, pensons fait. Je ne fais aucun jugement de valeur, je ne fais aucune interprétation. Je vous donne des faits objectifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec l'oppression de la femme? Donc, à partir de ce moment-là, graduellement, l'esclavage, surtout grâce à la productivité accrue à cause de la révolution industrielle, on avait moins besoin de main-d'œuvre parce que les machines pouvaient faire beaucoup plus. Alors donc, ce qu'on a fait, on a passé de l'esclavage au chômage. Dans 100 ans, on a passé de l'esclavage. Quel est le problème numéro un dans notre société aujourd'hui? C'est le chômage. Tout le monde parle, il n'y a pas assez de travail. Donc il y a 100 ans, on devait forcer les gens à travailler. Maintenant, on doit se forcer pour trouver du travail pour tout le monde. Alors, ça, c'est la plus grande transition dans l'histoire de l'humanité. Pendant 6000 ans, l'esclavage est la base même de la société. Et dans moins de 100 ans, ça devient non seulement inutile, mais nuisible à la société. Parce que on a le problème de trouver assez de travail pour tout le monde. Maintenant, dans l'oppression de la femme, il y a une histoire pareille. En 1848, c'est la date cardinale. Il y a 3 choses qui se sont passées sur 3 continents en 1848. La première, je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est quoi? En Amérique du Nord. 1848, c'est la conférence à Seneca Falls, n'est-ce pas? C'était le début du mouvement féministe aux États-Unis. Et en Amérique du Nord. Frederick Douglass était là, Susan B. Anthony était là. C'est le tout commencement. Seneca Falls, New York, 1848. La deuxième chose, c'est passé en Asie. Qu'est-ce que c'est? En 1848, Thaéré, c'est la conférence de Badache, où Thaéré enlève la voile et dit qu'elle ne va plus la porter et qu'on ne peut pas arrêter la libération de la femme. Et la troisième chose se passe en Europe. Encore une fois, je vous lis les faits d'histoire. C'est la publication du Manifeste communiste par Marx et Engels simultanément à Londres et à Berlin. Et à la fin, Marx élabore 12 principes du marxisme ou du communisme, parce que lui, même dans son arrogance, il ne s'appelait pas son système le marxisme, mais le communisme. Et deux des principes fondamentaux du système de Marx, c'est l'abolition de l'esclavage, y compris l'esclavage industriel. Nous savons tous que ça, c'est la base du communisme. Et l'autre, c'est l'égalité absolue des droits de l'homme et de la femme. C'est écrit noir sur blanc dans le manifeste communiste. Qu'on le veuille ou non, Marx est le premier philosophe dans l'histoire de l'humanité de proclamer dans ses écrits l'égalité des sexes. Alors, ce sont des faits. Je ne fais pas de jugement de valeur. Ben, ce que nous savons maintenant, c'est que la solution qu'offrait Marx ne marche pas. Mais que Marx ait vu le problème, nul ne peut le renier. Et voilà ce qui explique l'attrait du communisme, n'est-ce pas? Parce que l'analyse communiste des origines, des injustices, est juste, largement juste. Mais c'est la solution, évidemment. Donc c'est en quelque sorte une sorte de faux foi baraï, si vous voulez. Et voilà donc son attrait. Maintenant, encore deux choses. Aucun prophète de Dieu avant Baha'u'llah n'est jamais aboli l'esclavage. Je vous défie de trouver le moindre mot contre l'esclavage dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les écrits de Bouddha, le Coran. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez la révélation judaïque, l'Ancien Testament, la Torah, est un véritable manuel pour les maîtres d'esclaves. Lisez-le, c'est plein de choses. Si votre esclave frappe mon esclave, alors vous me devez tant, etc. Tout est basé sur l'esclavage. Évidemment, Moïse, en décrétant la libération du travail un jour sur sept, a quand même, d'une façon subtile, donné un peu de repos aux esclaves. Parce que c'est inutile de dire au maître d'arrêter le travail un jour sur les autres, il ne travaille pas de toute façon. Donc, Moïse a quand même donné du répit, et c'est quand même assez étrange, hein, vous regardez les 10 commandements, des choses aussi fondamentales que tout ne tournera point, etc., tout ne volera pas, etc. Et parmi ces 10 principes, un jour sur sept, vous arrêtez le travail. Si Moïse avait dit, ça serait une bonne idée si de temps en temps vous arrêtez le travail, combien de temps ça aurait duré? Ok? Mais il a fait un principe essentiel de sa foi, et même il y a une histoire dans la Bible où les gens ont effreint la loi du sabbat, et Moïse a décrété qu'il soit lapidé, qu'il soit tué. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ont pris le sabbat au sérieux. Donc, mais comme je dis, la fraternité chrétienne, lisez les lettres de Saint Paul, la fraternité chrétienne, c'est une fraternité spirituelle, mais qui n'implique pas de changement de rôle social. Et Paul le dit très explicitement, il dit que tous restent dans les rangs qu'ils avaient en entrant dans la foi. Ok? Donc, la fraternité chrétienne n'impliquait pas l'abolition de l'esclavage, même dans la communauté chrétienne. Il a même des cas dans la lettre de Paul à Philémon, où Paul renvoie un esclave Onésimus échappé, un esclave chrétien, à son maître chrétien. Okay? Et il dit, acceptez-lui comme votre frère. Mais il redevenait son esclave aussi. Okay? Donc son petit frère, si vous voulez. La même chose, vous trouverez aucun mot d'aucun prophète avant Baha'u'llah qui parle de l'égalité des sexes. Maintenant, je ne veux pas, entendez-moi bien ici, c'est très important pour la suite, je ne veux pas du tout dire que les prophètes appuyaient l'esclavage ou l'oppression des femmes. Je dis simplement, je ne dis pas qu'ils ont promu ces choses-là, je dis qu'ils étaient silents là-dessus. Ils se sont tus à ce sujet. Maintenant, ça soulève évidemment la question, pourquoi, si vraiment c'est immoral, si vraiment c'est contre la loi de Dieu, pourquoi les prophètes se sont tus là-dessus pendant si longtemps? Ça, c'est une toute autre discussion que nous pouvons peut-être entreprendre à un moment donné, si c'est intéressant. Alors, donc, voilà une des unicités de la foi Baha'i. Baha'u'llah est la première prophète, le premier prophète, la première manifestation qui a explicitement aboli l'esclavage dans des termes absolument sans équivoque et qui a enseigné sans équivoque l'égalité absolue des droits de l'homme et la femme. Et l'égalité de sexe dans tous les sens, pas simplement les droits, mais il dit que les femmes ont toutes les capacités et qualités des hommes, etc. Bon, maintenant, je prends pour acquis que j'ai démontré que l'injustice a prédominé notre histoire. Je prends pour acquis avoir démontré ça. Si vous voulez encore contester ça, nous pouvons faire après. Évidemment, je pourrais parler toute la journée juste sur cela, mais je pense que ces deux exemples sont suffisants pour montrer la prédominance de l'injustice dans notre histoire. Notre histoire est une histoire d'injustice. Maintenant, ça soulève évidemment pourquoi. Pourquoi notre histoire est une histoire d'injustice. Alors, Baha'u'llah nous donne une réponse. Il dit que la recherche du pouvoir, les uns sur les autres, est la racine de toute injustice. Vous ne croyez pas? Alors voilà, je vous lis ce passage de Baha'u'llah. C'est une traduction maison. C'est cité ici dans le Law, Power and Justice. Si vous voulez, à la page... Comment? À la page 14. Non, non, je m'excuse, je me trompe. À la page 24. La page 24, mais ça c'est en anglais.
Love, power, and justice.
Comment? Love, power, and justice.
Love, power, and
justice. Alors voici, je vais vous lire, comme je dis, cette traduction maison de ce passage. Écoutez bien. Et parmi les royaumes de l'unité est l'unité de rang et de grade. Cette unité contribue à l'exaltation de la cause, la glorifiant chez tous les peuples. Dès lors que la recherche de la préférence et de la distinction est entrée en jeu, le monde a été dévasté. Il est devenu désolé. Ceux qui ont bu de l'océan de la parole divine et fixé leur regard sur le royaume de gloire devraient se considérer comme étant du même niveau est du même rang que les autres. Le même niveau et le même rang que les autres. Si cette condition était définitivement établie et irréfutablement démontrée grâce au pouvoir et la force de Dieu, le monde deviendrait sûrement comme le paradis d'Abraham. Qu'est-ce que c'est le paradis d'Abraham? Qu'est-ce que c'est le paradis d'Abraham? Qu'est-ce que c'est? Mais le paradis d'Abraham a une signification très précise dans le...
C'est la vie après la mort pour les baillis.
Le paradis d'Abraham, c'est le royaume de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? C'est l'unité mondiale, c'est le royaume, c'est ce que nous prétendons, en tant que Baha'i, vouloir construire. Il dit, le monde deviendrait sûrement comme le paradis d'Abraham. Donc on peut dire, le paradis d'Abraham, c'est là où la volonté d'Abraham, c'est-à-dire où la volonté de Baha'u'llah est faite. N'est-ce pas? En royaume, il y a un roi. Le roi impose ses décrets pour le bien-être de ses sujets. Le roi, dans ce cas, c'est Dieu, dans sa manifestation de Baha'u'llah. Et le royaume d'Abraham est donc le royaume où le roi est obéi. Ceux qui n'obéissent pas au roi s'excluent du royaume. Ok? Donc, traduisons ça dans des termes plus terre-à-terre. La condition nécessaire et suffisante, le prérequis essentiel pour l'établissement de l'ordre mondial de Baha'u'llah est que tous, sans exception, se considèrent du même niveau et du même rang que les autres. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que jamais nous pourrions réussir tant que nous ne remplissons pas cette condition. Et si nous remplissons cette condition, nous allons sûrement réussir. C'est la condition nécessaire et suffisante. Mais Baha'u'llah n'arrête pas là. Il dit, en effet, l'homme est noble, car chacun est le dépositaire du signe de Dieu. Donc nous avons chacun des qualités, des capacités. On n'est pas dépourvu de qualités. Néanmoins, donc en dépit du fait que nous avons chacun ces qualités, néanmoins, c'est une grave transgression de se considérer supérieur aux autres quant à sa connaissance, son accomplissement ou sa vertu. Ou encore de s'exalter ou de chercher la préférence sur les autres. Grande est la bénédiction de ceux qui sont parés de l'ornement de cette unité et qui ont été gracieusement confirmés par Dieu. Remarquez encore une fois la subtilité du langage de Baha'u'llah. La subtilité. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de personne supérieure aux autres quant à leur connaissance, leur accomplissement, à leur vertu. Mais il dit, ceux qui se pensent supérieurs sont certainement pas supérieurs. Donc, si vous vous demandez si une personne X quelconque est peut-être une de ces personnes supérieures, alors, le premier test, c'est de regarder est-ce que cette personne se pense supérieure. S'il se pense supérieur, il n'est sûrement pas une personne supérieure. Et ça, selon les écrits. Donc, ces personnes sont probablement des gens cachés parmi nous, qui sont tellement dévoués à la foi, que nous ne les voyons même pas, parce qu'ils s'effacent complètement. Ce n'est pas des gens comme moi qui parlent devant les autres. C'est des gens qui servent et qui aiment. Ok? Et c'est seulement quand nous arrivons à mettre en valeur ces qualités et les personnes qui ont ces qualités que nous allons vraiment transformer la communauté. Ce n'est pas en écoutant des belles conférences. Alors, j'ai des multiples copies de ça que je vais donner aux chefs d'atelier. Et vous pouvez donc le relire, ce passage, dans la chose. Donc, la racine de l'injustice, c'est la recherche du pouvoir. Pourquoi? Pourquoi la recherche du pouvoir mène à l'injustice? C'est enchâssé dans la logique même de la recherche du pouvoir. Parce que qu'est-ce que c'est de rechercher le pouvoir sur les autres? C'est de chercher à dominer les autres d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on domine les autres? Soit en leur promettant une récompense, ou soit en les menaçant d'une punition ou de retirer quelque chose que vous avez, que vous contrôlez. N'est-ce pas? Maintenant, encore une fois, attention, le langage de Baha'u'llah est très subtil et nous ne pouvons pas avancer dans notre étude, à moins maintenant, on ne peut plus avaler les écrits sans les décortiquer. Baha'u'llah ne dit pas que c'est l'exercice de pouvoir qui est la source du mal. Nous avons besoin de pouvoir. Sans pouvoir, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? C'est simplement de l'énergie, n'est-ce pas? Le pouvoir, c'est de l'énergie. La moralité intervient seulement quand nous venons choisir comment utiliser notre pouvoir. Exemple, je vous donne trois exemples. Où il y a des différentiels de pouvoir inhérents à la réalité. D'abord, parents et enfants. Les parents ont un pouvoir sur les enfants. Il a un différentiel de pouvoir, il n'y a pas d'égalité. Maintenant, les parents vis-à-vis des enfants ont essentiellement deux choix. J'utilise mon pouvoir sur mes enfants, pour les éduquer, pour les élever, pour favoriser leur autonomie, qu'ils viennent encore meilleurs que moi. Je me sacrifie, je m'efface devant le potentiel de mes enfants. Ou bien, je célèbre mon pouvoir sur les enfants en sabotant leur autonomie de toutes les façons possibles. Si je vois qu'ils ont une qualité, je vais dénigrer cette qualité subtilement. Je vais saboter toutes ces qualités naissantes, émergentes dans l'enfant. Bien sûr, ça peut être très inconscient. Parce que si on nous a fait la même chose, on risque de faire la même chose à nos enfants. Deuxième exemple. Professeur et élève. Même chose. Le professeur a un pouvoir sur ses élèves de par sa connaissance supérieure, etc. Il a deux choix. Il peut utiliser son pouvoir pour instruire, élever, favoriser l'autonomie de ses élèves, pour que ses élèves finissent par le dépasser. OK? Ou il peut, d'une façon charismatique, arrogante, démontrer sa supériorité en écrasant ses élèves avec la force de son cerveau. OK? Troisième exemple, c'est médecin et patient. Quand vous allez chez le médecin, vous êtes malade, vous êtes vulnérable, vous avez peur, et vous espérez que ce médecin a quelque chose dans son outil, sa trousse de connaissances, qui va vous aider à guérir. Encore une fois, le médecin a un choix. Et vous savez tous, je suis sûr que vous avez rencontré les médecins des deux types. Il a le médecin qui va s'effacer, qui va se sacrifier pour guérir son élève, son patient. Qui va mettre tout en œuvre, qui va aimer son patient. Et d'ailleurs, Michael Penn, qui est un de mes collaborateurs, enfin, je suis un de ses collaborateurs, qui est un psychologue, un thérapeute, il a dit, j'ai jamais pu aider un patient sauf quand je l'aimais vraiment. Que c'est la condition essentielle. Toutes les techniques du monde ne vont rien changer s'il n'y a pas d'amour. Alors, encore une fois, le médecin a un choix. Donc, les différentiels de pouvoir existent, ils viennent de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui avons créé le différentiel de pouvoir entre, par exemple, les parents et les enfants. C'est Dieu, ça vient de Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la recherche de pouvoir, ça. Ce pouvoir existe dans la réalité. L'immoralité, c'est l'abus du pouvoir, c'est de mal disposer de son pouvoir. Autrement dit, la racine de l'immoralité, c'est dans la volonté, c'est les choix qu'on fait. Le bien et le mal, c'est un potentiel dans le cœur de chacun. L'effet de pouvoir, le bien et le mal ne résident pas dans les faits, mais dans les choix que nous faisons, les choix conscients. Donc, la moralité, à son niveau le plus élémentaire, égale bon choix. Bon choix. Et en particulier, bon choix de la façon qu'on utilise nos pouvoirs. Mais ce que Baha'u'llah dit, c'est que parmi les abus de pouvoir possibles, la recherche du pouvoir est toujours un abus. Pourquoi? Parce que le pouvoir est une énergie qui doit se servir comme moyen pour obtenir des valeurs supérieures. Or, cherchant le pouvoir, nous faisons du moyen une fin. Donc, on peut dire la chose suivante. Ah, j'écris en... Pouvoir, justice, amour. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans notre histoire? Mais selon Baha'u'llah, c'est pas moi, nous avons recherché le pouvoir en attribuant au pouvoir la plus grande valeur. Parce qu'on cherche, si vous avez un billet de 10 dollars dans votre main, et votre autre main, mettons, est liée ou quelque chose, justement. Si je vous tends un billet de 100 dollars, vous allez relâcher volontairement le billet de 10 dollars pour attraper le 100 dollars. Si je vous offre un billet de 5 dollars, vous n'allez pas laisser aller le billet de 10 dollars pour attraper le 5 dollars. Donc, vous allez chercher la valeur que vous considérez comme supérieure. Donc, en cherchant le pouvoir, les hommes, par leurs actions, donnent le plus grand valeur au pouvoir même. Pas à ce qu'on fait avec le pouvoir, mais au pouvoir même. Alors ça, c'est la subtilité. Ce qui est immoral, c'est la recherche du pouvoir sur les autres. Ce n'est pas le fait d'avoir un pouvoir sur les autres. Eh bien, quand on cherche une fin, il faut toujours des moyens. Il faut toujours des choses qu'on sacrifie pour obtenir ce qu'on veut, comme le 10 dollars qu'on relâche pour attraper le 100 dollars. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour avoir le pouvoir? On sacrifie la justice et l'amour. La recherche du pouvoir crée l'injustice et la haine. Ça crée l'injustice. Pourquoi? Maintenant, je vous dis exactement pourquoi. C'est dans la logique de la chose. Les relations de dominance sont des relations asymétriques. Ce sont des relations asymétriques. Une relation de dominance, parce que, écoutez bien, c'est aussi simple que ça. Il est logiquement impossible que j'ai un pouvoir sur vous et vous avez un pouvoir sur moi en même temps et de la même façon. Il est trop possible que ni l'un ni l'autre a un pouvoir sur l'autre. Ça, c'est certainement possible, n'est-ce pas? C'est pas même quand on n'a aucune relation du tout, ou que nous avons une relation d'égalité, où ni l'un ni l'autre a un pouvoir. Mais si il a un gagnant, il a nécessairement un perdant. Il ne peut pas avoir de gagnant sans perdant, n'est-ce pas? Je ne peux pas courir plus vite que moi-même. Je ne peux pas... La logique du pouvoir, c'est que l'aboutissement inévitable de la recherche du pouvoir est l'établissement des relations de dominance, les relations asymétriques. Asymétriques dans le sens précis que le dominateur a certains droits et privilèges que l'autre n'a pas. Ce n'est pas une relation réciproque. OK? Donc, il est parfaitement inutile de faire comme on fait dans notre société, de dire, ben voilà, la société est basée sur la compétition, l'économie est basée sur la compétition, il faut chercher toujours à surperformer les autres, il faut toujours chercher pour soi-même, à dépasser les autres. Mais une fois que vous avez pris ça depuis votre lait maternel jusqu'à l'âge d'adulte, dans les écoles, de tout et tout, dans toutes vos relations, les sports professionnels, le militaire, et tous ces trucs pour faire que la recherche du pouvoir paraisse normale et cache le fait que ça ronge l'âme à mort. Ok? Toutes ces choses-là, c'est inutile donc devant ces choses-là de dire, et il faut aussi, il faut être gentil quand même les uns avec les autres tout en recherchant le pouvoir, c'est pas possible. Si par exemple, je suis en compétition avec vous, je ne peux pas me permettre la compassion envers vos souffrances, parce que si je m'identifie à vos souffrances, peut-être moi, je suis la cause de certaines de vos souffrances. Alors ça va miner ma volonté de pouvoir. Donc le patron ne peut pas se permettre de se soucier du bien-être de ses employés. À moins que ça serve d'une façon d'étourner son propre avantage, n'est-ce pas? Mais véritablement se soucier. Donc, le pouvoir mène à... Inévitablement, ça sacrifie la justice et l'amour et ça mène à des relations réciproques. Asymétriques, excusez-moi. L'amour, par contre, l'amour mène à des relations réciproques. Maintenant, ici, on entre dans vraiment le cœur de tout. Dans le cœur de tout. Adam a dit sans équivoque que l'amour est la plus grande force qui existe, que c'est la plus grande valeur dans l'existence. Je peux vous citer un tas de passages. Exactement ça. L'amour est la plus grande force dans l'existence et c'est la plus grande valeur dans l'existence. Et il dit, pourquoi donc l'amour est une chose si universelle? Parce que l'amour est la seule transaction entre êtres humains qui est expérimentée de façon positive par les deux parties. C'est la seule transaction win-win. C'est la seule transaction gagnant-gagné. Comme je dis, dans les relations de pouvoir, il y a toujours un perdant. Il y a toujours un perdant. Mais il n'y a pas de perdant dans l'amour. Il n'y a pas de gagnant non plus. Mais si on est heureux, pourquoi est-ce qu'on veut gagner et être malheureux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on gagne en devenant malheureux? Pour dire qu'on a dépassé, on a dominé notre frère ou notre soeur. Donc l'amour conduit aussi inévitablement à des relations réciproques que le pouvoir, la recherche du pouvoir, conduit à des relations asymétriques. Maintenant, et l'amour nous rend véritablement heureux, parce que Dieu a fait la nature humaine de telle sorte à ce que l'amour est expérimenté de façon positive par tout le monde. Dieu a fait la réalité, il a enchâssé dans la réalité une loi qui veut dire que c'est seulement l'amour qui va rendre tout le monde heureux, et rien d'autre que l'amour va rendre tout le monde heureux, et l'amour est possible. Donc, non seulement ça va rendre les gens heureux, mais il est accessible. Bien sûr, par la grâce de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu que ça soit accessible. Donc, en cherchant le pouvoir au travers de notre histoire, nous avons littéralement cherché notre malheur. Et mon Dieu qu'on a trouvé. Mon Dieu qu'on a trouvé. Ok? Mon Dieu qu'on a trouvé. On le trouve encore aujourd'hui. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait une chose aussi bête que ça? Pourquoi on continue à le faire? Pourquoi dans notre service à la foi, on se compétitionne les uns avec les autres? Pourquoi il y a des jalousies dans la foi? Pourquoi il y a encore nous important ces jeux de pouvoir dans nos assemblées, dans nos conférences, dans nos relations, même entre pareils? Pourquoi on fait ça? Eh bien, la réponse, je crois, est très simple. Qu'est-ce que nous recherchons en recherchant le pouvoir? On recherche notre valeur. On recherche notre valeur parce qu'on se considère sans valeur. Donc la racine de toute cette histoire d'injustice est l'auto-perception chez l'être humain individuel qui n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, c'est le manque de valeur intrinsèque. Maintenant, qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque, si je peux le dire, intrinsèque? Bon, bien sûr, c'est notre âme. C'est Dieu qui a doté chacun d'une âme, et cette âme est dotée de capacités. D'abord, et tout premièrement, il a la capacité de conscience. Nous sommes conscients de nous-mêmes. Nous sommes, nous savons, et par la science et par la foi, que nous savons que les êtres humains sont le seul être créé par Dieu qui sont dotés de conscience. C'est-à-dire, le chien ne sait pas qu'il est un chien. Il est un chien et il sent des émotions, mais il ne peut pas dire, moi je suis un chien qui ressent telle ou telle émotion. Parce qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Il n'a aucun soi chez un animal. Le soi, c'est le résultat de l'âme et ses capacités. Le premier, c'est la conscience. Et cette conscience a trois dimensions, qu'on peut appeler aussi les capacités fondamentales de l'âme. Et ça, c'est l'esprit, la capacité de compréhension, le cœur, la capacité affective, la capacité de ressentir des émotions, et surtout l'émotion de l'amour altruiste. Et la volonté, la capacité de soutenir et initier une action.
Capacité d'esprit, c'est quoi?
L'esprit, c'est l'intellect, c'est la compréhension. L'esprit, c'est la compréhension. Disons l'intellect, si vous voulez, mais l'esprit, Mahalia a choisi le mot esprit. Et je pense que c'est mieux parce que c'est plus général, parce que ce n'est pas juste l'intellect d'une façon étroite comme nous le concevons. Mais en anglais, on dit la capacité d'intelligence ou de compréhension. C'est pas intelligence or comprehension. Mais j'aime bien le mot esprit. Mais en tout cas, entendons-nous sous le sens, c'est tout. Donc il a la capacité de comprendre. Ce qui veut dire de percevoir et de concevoir, la capacité affective qui est la capacité d'aimer et aussi la capacité de haïr et la capacité de volonté. Maintenant, nous savons par les écrits que chaque âme est dotée et créée de la même substance. Donc, il n'y a pas d'âmes qui sont faites d'une meilleure étoffe que d'autres âmes. Okay? Deuxièmement, que chaque âme humaine est dotée de la capacité de refléter tous les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? Ben, on nomme des choses comme la compassion, la justice, etc. En fait, ces trois capacités, l'intelligence, le cœur et la volonté, sont comme les trois couleurs primaires. Vous savez, combien de couleurs est-ce qu'il y a? Une infinité de couleurs. Mais toute l'infinité des couleurs est une combinaison de trois couleurs premières. Faisons une autre chose. Combien de poésie est-ce qu'il peut avoir? Combien est-ce que de poésie différente est-ce qu'il peut avoir? Une infinité. Mais toute poésie est écrite avec 26 lettres. Donc, ça, c'est la génération de l'infini à partir du fini. Et ça, je peux donner une autre conférence là-dessus, ça se réplique à tous les niveaux. C'est la façon que Dieu a créé le monde matériel, c'est à partir des éléments finis, par des combinaisons illimitées de ces choses finies, il crée l'infinité, n'est-ce pas? Donc, en développant notre capacité de compréhension, d'amour et de volonté, nous développons notre valeur intrinsèque et c'est ce que nous reflétons ainsi de plus en plus les attributs de Dieu, parce que les attributs de Dieu sont toutes les choses positives, si vous voulez, qu'on peut faire avec des combinaisons aussi subtiles que ce soit de ces trois capacités primaires. Je vous prie de croire, je n'ai pas le temps de citer, mais je vous prie de croire que j'invente rien, que tout ça s'est enraciné dans les écrits. Maintenant, un mot de plus sur la valeur intrinsèque. Donc, la valeur intrinsèque vient de Dieu. C'est le capable. Oui, mais il me faut encore quelques minutes. OK. Et j'étais interrompu, je l'ai même dit. Et je vais... okay. Okay. Moi non plus. Okay. Je pense des deux rôles, vous pouvez me concéder que la mienne est aussi difficile que la vôtre. Ok. Non mais j'en ai encore pour 5 minutes et puis j'ai terminé. Okay. Alors il faut que je récupère. C'est ça. Notre valeur intrinsèque, c'est ces capacités d'âme, et ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vos parents. Vos parents vous ont légué votre corps avec ses faiblesses et ses forces et tout ça, mais ça c'est temporaire. Mais les capacités d'âme, ça vient de Dieu. C'est dit explicitement dans les écrits que la capacité de chaque âme vient de Dieu, c'est fixe par Dieu, et ça ne changera jamais. On peut développer cette capacité, mais on ne peut pas changer. C'est comme un contenant, vous pouvez le remplir plus ou moins, mais le contenant lui-même demeure toujours la même capacité. Intrinsèque de la condition humaine, que la seule façon d'obtenir le but que nous cherchons, c'est-à-dire l'unité, c'est en renonçant la recherche du pouvoir dans nos relations humaines et de la remplacer par la recherche de l'amour. Là, il y a un petit problème. Le problème est le suivant. Dans le passé, on a cherché le pouvoir et on a sacrifié l'amour et la justice à l'autel du pouvoir. Et nous vivons le résultat de cette façon de faire les choses. Maintenant, en cherchant le pouvoir, l'âme pense avoir cherché le bien. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit ce matin, on cherche toujours ce que nous croyons être la plus grande valeur, n'est-ce pas? Donc, si les âmes ont cherché le pouvoir, et en se faisant, ont créé leur propre malheur, c'est parce qu'ils ne se rendaient pas compte. C'est-à-dire qu'à leur perception, à notre perception, le pouvoir avait une valeur. Il valait la peine de la chercher. Parce qu'aussitôt qu'on perçoit que ça ne vaut pas la peine, on ne va pas le faire. Voilà. Aussitôt que vous comprenez la différence entre 100$ et 10$, eh bien, vous n'allez plus chercher, lâcher un 100$ pour avoir 10$. Voilà. Je donne un exemple banal, mais quand même. Voilà. Donc, on a vu que on cherche le pouvoir parce qu'on est ignorant de notre valeur intrinsèque qui vient de Dieu. On est ignorant de ce que nous sommes en réalité. Voilà. Donc, on cherche à acquérir une valeur en cherchant le pouvoir. Mais pourquoi le pouvoir nous donne une valeur? Parce que le pouvoir sur les autres nous donne la possibilité de les comprendre
à reconnaître notre valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai le pouvoir sur vous? Ça veut dire que je suis dans une position sociale ou une condition de relation. Tel que moi, j'ai des choses que vous voulez ou dont vous avez besoin. Je peux donc vous menacer de retirer ces choses-là. Je peux aussi vous promettre de les donner à condition que vous fassiez certaines choses. Ou je peux aussi vous punir, c'est-à-dire vous causer de la douleur active en imposant mon pouvoir de façon diverse. Donc, le pouvoir, ça veut dire le contrôle des ressources matérielles et humaines de la société. Nous avons du pouvoir dans ce sens extérieur, dans la mesure que nous disposons, nous pouvons décider de l'allocation de tant de ressources humaines et matérielles. Okay? Votre boss, votre patron a du pouvoir sur vous, parce qu'il dispose de la possibilité de vous congédier, non. Ça, c'est un pouvoir pour vous. Okay? Ah, c'est indiscutable. Donc, on cherche le pouvoir pour avoir une valeur. Mais il y a une valeur que le pouvoir ne peut jamais donner. Qu'est-ce que c'est? C'est précisément l'amour. Le pouvoir n'a aucun, pour ainsi dire, pouvoir sur l'amour. C'est-à-dire, l'amour ne peut pas être créé par un acte de volonté. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous êtes mon esclave, donc toutes les façons. J'ai un pouvoir absolu sur vous. Je peux vous écraser, je peux vous faire de vous un objet sexuel, je peux faire n'importe quoi, je peux mettre tellement de pression que enfin, à peu près n'importe quel être humain je peux vous forcer à commettre des actes que vous jugez immoraux en vous menaçant avec mon pouvoir, etc. En vous causant tellement de douleur, je peux vous viser. Mais avec tout ce pouvoir absolu que j'ai sur vous, est-ce que je peux faire que vous m'aimiez? Plus que j'exerce mon pouvoir sur vous, moins vous allez être enfermé. L'amour ne peut pas être contrôlé. L'amour nous contrôle. Nous n'avons aucun contrôle sur l'amour. Et nous ne pouvons pas créer l'amour. Everybody dit ça explicitement dans les causeries à Paris. Il dit, tout amour vient de Dieu. L'amour est toujours une grâce de Dieu. Nous ne pouvons jamais créer l'amour. Par aucun acte de volonté, est-ce que nous pouvons augmenter, tant soit peu, la quantité d'amour dans le monde ou en nous au monde. Étant donné que le pouvoir est une réalité, nous avons déjà vu que dans la configuration de la réalité de Dieu lui-même, il y a des différentiels de pouvoir qui sont naturels et qui servent un but divin, comme parents, enfants, médecins, patients, etc., professeurs et élèves. Donc la question se pose, comment bien utiliser notre pouvoir. C'est-à-dire, ce matin, on a parlé en long et en large des abus de pouvoir et des résultats des abus de pouvoir. D'accord, prenons ça pour acquis. Mais maintenant, comment bien utiliser le pouvoir? Alors, et étant donné le fait que le pouvoir ne peut pas directement créer l'amour, comment pouvons-nous faire le passage de l'amour? La réponse, c'est l'injustice. La justice, c'est rien d'autre que les conditions qui sont nécessaires à la florissance de l'amour. Donc la justice n'est pas une chose abstraite, formelle et tout ça. Regardez les Kataviyatas. La plus grande justice, la justice que Shumimini dit, était attendu depuis des millénaires, n'est-ce pas, anticipé dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Moïse, et tout, et tout, et tout. Et qu'est-ce que c'est le Tetragrammaton? C'est une lettre d'amour de Dieu envers lui. N'est-ce pas? Une lettre d'amour de Dieu envers lui. C'est ça le Tetragrammaton. Comme Baha'u'llah lui-même a dit, j'ai décanté le vin choisi. Ce n'est pas une code de loi. Parce que vous ne pouvez jamais obtenir l'amour par une code de loi. Mais vous pouvez obtenir l'amour par la justice. Et qu'est-ce que c'est la justice? C'est des conditions qui attirent l'amour. L'exemple le plus simple est le suivant. Le champ électromagnétique qui court des pôles sur la Terre existe toujours dans la même intensité. C'est-à-dire l'électricité, le champ électromagnétique, court autour de nous maintenant. Si nous n'avions pas de terre ordinaire, bon, quel rapport entre la barre de fer et ce champ électromagnétique? Mais si vous alignez la polarité des molécules, si vous magnétisez la barre de fer, tout d'un coup, la barre de fer devient attractive, devient magnétique. Elle attire des choses, et même des choses qui, elles, ne sont pas encore magnétisées. Donc, l'alignement de la polarité des molécules, c'est l'établissement de la justice. Une fois que cette condition est atteinte, ça crée les conditions qui attirent l'amour. Donc nous ne possédons pas l'amour. Nous sommes possédés par l'amour. L'amour n'est pas notre instrument. Nous sommes l'instrument de l'amour. Et la seule chose que nous pouvons faire pour devenir l'instrument de l'amour, c'est d'utiliser notre pouvoir pour augmenter la justice. Quand est-ce qu'on fait ça? À chaque instant de votre vie. C'est-à-dire, vous avez le choix maintenant de m'écouter ou de ne pas m'écouter, de songer à ce que vous allez faire après le break, etc., de quitter la salle, vous avez fait un choix de venir ici, etc., etc. En fait, à chaque instant de notre vie, nous choisissons. Le choix est constant. Et donc, la seule façon de chercher l'amour, c'est à chaque instant, à chaque fois qu'on fait un choix, c'est d'utiliser ce pouvoir de choix, cette volonté puissante, comme Abdu'l-Bahá le décrit, pour choisir la justice ou pour agir de façon à augmenter la justice dans le monde, en nous et en d'autres et dans nos relations. Alors, pour le moment, je n'ai pas dit comment agir de cette façon. Mais j'ai dit, c'est la seule possibilité. Donc, pensez à la justice comme aimantiser, magnétiser ce bord de fer. Hein? C'est ça que vous cherchez à faire. Et ça devient automatiquement attractif une fois que vous le faites. Donc, notre tâche, c'est de renverser la pyramide du passé. Par le passé, notre histoire d'injustice provient du fait que nous avons cherché le pouvoir au nom du bonheur, mais parce qu'on a faussement conçu que le pouvoir va être une source de valeur, que c'est la plus grande valeur, mais non, Abdu'l-Bahá nous dit que la plus grande valeur de l'amour est non seulement la plus grande valeur de l'amour, mais le pouvoir ne sert à rien pour obtenir l'amour. Donc, ce n'est pas simplement une pierre de temps, c'est activement contre le but de chercher l'amour. C'est-à-dire, c'est comme l'eau et le feu, littéralement, vous ne pouvez pas chercher le pouvoir et l'amour en même temps. Donc, le choix à chaque instant que nous avons, à chaque instant de notre vie, c'est est-ce que dans le prochain segment, nous allons choisir le pouvoir ou l'amour. Chaque fois que nous faisons le bon choix, nous nous développons. Et chaque fois que nous faisons le mauvais choix, nous régressons. Ainsi, le sort de notre âme joue à chaque instant. Maintenant, ça c'est effrayant, mais c'est aussi merveilleux, parce que ça veut dire que vous pouvez continuellement vous développer spirituellement. Vous n'avez rien plus haut. Vous n'avez simplement à apprendre les bons choix et à les faire. Donc, d'une façon générale, ces bons choix, c'est d'utiliser votre pouvoir, tel qu'il est, pour établir la justice. Une fois la justice établie, eh bien, l'amour fleurit. L'amour est une force attractive qui prend possession de nous une fois que nous établissons la justice. Ou, mettons, plutôt progressivement, au fur et à mesure qu'on augmente la justice, l'amour, vis-à-vis. Ce n'est pas plus que rien, mais pour que tout. Mais maintenant, la question, c'est comment faire cela? Bon, la réponse, la première réponse naïve, c'est la réponse suivante. Ben, on aime les autres. On aime les autres. On agit avec bienveillance envers les autres. C'est bien. Mais nous savons tous qu'il y a une binarité dans les relations humaines. Cette binarité, c'est le fait que nous expérimentons certaines choses positivement et d'autres négativement. Pour parler dans des termes simples, tout le monde se sent bien quand on est traité avec amour et courtoisie et bienveillance, kindness en anglais, et tout le monde souffre de la cruauté et de la haine. C'est la nature humaine. Vous prenez un petit bébé qui vient de naître. Vous mettez un peu de miel sur ses lèvres, alors il va répondre positivement. Vous mettez un goutte de quinine sur sa langue, il va réagir immédiatement. Vous dites, mais c'est un instinct du système nerveux. Je veux bien que c'est un instinct du système nerveux, mais c'est un instinct qui est universel. Donc ça fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas une chose qui a été socialisée. La même chose, qu'est-ce que Freud a dit? Freud, est-ce que c'était un moraliste? Non. C'était le scientifique impitoyable, athée, matérialiste au bout. Il a fait des recherches pendant 50 années, et quelles étaient les conclusions? Les enfants qui sont aimés et bien traités sont heureux, et les enfants sont abusés sont mal, sont malheureux. C'est ça. N'est-ce pas? Il a détaillé, évidemment, toutes les façons, tous les serpents, toutes les façons que les enfants maltraités peuvent être malheureux, n'est-ce pas? On classifie ça, on est ceci, cela et autre, etc. Mais c'est simplement le nom qu'on donne au malheur qui provient de quoi? De mangeur. Mais c'est Freud lui-même qui dit ça. Et ça a été bien entendu vérifié par d'autres chercheurs. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des scientifiques pour ça? Est-ce qu'on doute vraiment qu'il y a quelqu'un qui ne souffre pas de la cruauté et qui n'aime pas être aimé? Donc c'est la nature humaine. Alors on peut dire, ben voilà, il faut traiter avec bienveillance les autres. D'accord. Mais dans le passé, on ne se traitait pas avec bienveillance. C'est-à-dire, on a vu que la recherche du pouvoir et non la recherche de l'amour a prédominé dans le passé. Mais le passé, on ne peut pas le changer. Le passé, donc nous voici au moment présent, et ça c'est pour ceux qui connaissent un peu la physique, c'est le light cone, c'est le cône de lumière. Donc ça c'est la lumière du passé qui converge vers le présent. Et ça, c'est le cône du futur qui rayonne du présent. Hein? Donc tout ce que nous connaissons du passé doit être contenu dans le cône du passé, et tout ce que nous pouvons influencer dans l'avenir se trouve dans cette cône. Hein? Tout ce qui est en dehors de ça, nous n'avons aucune contrôle. Et aucune relation, même peut-être. Hein? C'est juste? Merci. Bon. Non, mais c'est vrai.
Non, mais
ok. Un piété très bon. Alors, veille sur moi. Ok. Donc, ce que je vous présente ici, c'est la science. C'est la science, ce n'est pas de l'invention. Alors, d'abord, comme je dis, le passé ne peut pas être changé. Pendant, dans tous les mondes de Dieu, pour toute l'éternité, il demeurera vrai que pendant 6000 ou 7000 ans de l'histoire sur cette planète, les hommes ont opprimé les hommes. Rien que les hommes peuvent faire maintenant peut changer de quelque façon que ce soit le fait de tous les viols, de tous les abus qu'on a utilisés. Pendant toute l'éternité, il sera vrai que les hommes blancs ont rendu en esclavage les hommes noirs au sud des États-Unis pendant quelques siècles. Même quand l'unité parfaite entre les races est établie dans l'ère Baha'i, ce passé demeure toujours. Jamais. Donc, première conclusion, le processus d'obtenir la justice et donc l'amour ne passe pas par aucun effort de changer le passé. Donc, essayer de changer le passé est absolument inutile. Est-ce qu'on fait fi du passé? Non, on apprend la leçon que le passé nous a appris. On apprend comment on a mal fait dans le passé pour mieux faire. Mais je présente une logique encore plus rudimentaire. Le problème, ce n'est pas simplement comment bien agir dans le présent. C'est comment changer nos habitudes d'agissement. Parce que nous héritons de notre passé d'injustice tous des réflexes de recherche de pouvoir qui ont créé justement le monde dans lequel nous vivons. Okay? Donc, nous avons une tâche qui est plus grande, c'est-à-dire, c'est comme le petit enfant. Le petit enfant, s'il apprend bien la première fois, il n'a pas à désapprendre et réapprendre. Mais nous sommes comme des enfants qui ont été mal élevés par notre histoire. Et donc, nous devons défaire les mauvaises structures avant de pouvoir faire les choses. Donc, nous avons une double tâche. C'est pourquoi c'est tellement difficile. Il ne s'agit pas simplement de dire, maintenant, je vais être gentil avec tout le monde. Parce que nous devons faire face à l'héritage du passé. Et cet héritage, c'est que c'est toutes les injustices, c'est tous les mécanismes d'injustice. C'est ça que je veux dire. C'est tous les mécanismes qui produisent l'injustice que nous héritons. C'est pas seulement le fait mort de l'injustice, mais c'est tous les processus et les mécanismes qui sont enchâssés dans nos corps, dans nos têtes, dans nos cœurs, qui produisent et reproduisent l'injustice dans les gens. C'est ça qu'il faut déraciner. Alors, comment faire ça? Alors, le passé, inutile de chercher vers le passé pour changer l'avenir. L'avenir, le futur, nous avons très peu de contrôle sur le futur. Nous pouvons faire des plans, des projets, mais on ne peut jamais faire aucun projet en s'assurant que des conditions hors de notre contrôle ne vont pas venir complètement chambarder nos plans. Hein? Donc, notre contrôle sur l'avenir est quasiment nul. Peut-on faire presque nul. Pratiquement nul. Pratiquement nul. La seule chose dont nous avons le contrôle, c'est le moment présent. C'est la seule chose. Et non seulement, c'est seulement le moment présent, notre contrôle du moment présent est très limité. C'est limité à quoi? C'est limité à nos actions. Dans ce présent moment, est-ce que vous avez contrôle sur les actions d'autres personnes ici? Si quelqu'un, tout d'un coup, devient fou, il se lève et il essaie de frapper quelqu'un, est-ce que vous pouvez contrôler ça? Non. Vous pouvez être responsable pour votre façon de réagir à un tel événement, mais l'événement même, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, notre contrôle, le champ d'action de notre volonté, le champ d'action de notre volonté est limité à la contrôle de nos actions au moment présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la moindre faille dans cette démonstration? Là, je vous invite sincèrement à contester si vous voyez la moindre faille. Je dis encore une fois que le seul contrôle véritable que nous avons, c'est le contrôle sur nos actions dans le présent.
Qu'est-ce que tu fais des hommes de science qui disent, par exemple, le principe de causalité n'existe pas? Ce ne sont que...
Maintenant, je ne dirai rien. OK? Parce que c'est vraiment pas un contrôle. Okay?
C'est pas le même problème.
Oui, c'est ça. C'est pas le même problème. Parce que c'est un autre. OK, you have the mic.
Do I
have
to take the music?
The mic no, the
microphone.
Donc nous avons seulement le contrôle, notre contrôle comme il est, c'est sur nos propres actions au moment présent, et même ce contrôle-là est loin, loin d'être absolu, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que nous avons tous fait des choses qu'on dit, pourquoi j'ai fait ça, c'est bête, je savais mieux faire que ça, etc. Donc nous n'avons même pas un contrôle parfait. Je dis, tout contrôle qu'on a, tout contrôle que nous puissions avoir est limité au contrôle de nos actions dans le moment présent. Maintenant, nous voulons tous établir le royaume de Dieu sur la terre et nous disons que le futur serait donc différent du passé, parce que le passé c'est un passé d'injustice et nous voulons que le futur soit un futur de justice. Nous parlons d'établir la justice, ce qui veut dire que c'est une chose à faire, ce n'est pas fait, ce n'est pas encore établi. Maintenant, je fais un deuxième syllogisme. Si nous continuons à agir dans le présent comme nous avons agi par le passé, notre futur sera identique à notre passé. Qui peut réfuter ça? Je suis très sincère. Qui peut réfuter ça? Donc, la seule possibilité que nous avons d'avoir un futur différent de notre passé, c'est de changer la façon que nous agissons dans le présent. Tant et aussi longtemps que ça ne se fait pas, le futur sera la réplique du passé. Oui?
Pourquoi les adeptes de toutes les manifestations du passé ont répété le même pas? Et en fait, les décisions du présent dépendent autant que celui des adeptes de...
Mais ce Mahala explique, selon Kitabi Gan, que l'imitation du passé est la faute fondamentale qui a conduit toutes les peuples de rejeter la nouvelle manifestation. C'est dans le Kitabi Gan, c'est ça. Lisez, il dit, la raison principale que les hommes ont rejeté chaque prophète, c'est l'imitation aveugle du passé. OK? Et pourquoi? Parce que, écoutez bien, la vie est un processus de développement, de progression. Alors,
Il est logiquement impossible de progresser en imitant une étape intérieure de notre développement. Est-ce que l'adulte va progresser en imitant son comportement d'enfant? Donc, l'imitation du passé est le plus grand obstacle, dit Baha'u'llah, au progrès. Mais le problème, c'est qu'on imite le passé inconsciemment, encore une fois. Tous ces mécanismes maladifs sont enchâssés dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits. Et on verra justement comment les extirper. Ok. Donc, on arrive au point suivant. La seule possibilité que nous avons pour avoir un futur différent du passé, c'est de changer notre façon d'agir chacun dans le moment présent. Maintenant, comment faire ça? J'aimerais juste faire une petite parenthèse. En suivant, on demande la question, est-ce qu'il y a eu des changements dans les 6000 ans d'histoire? Ma réponse à cela est la suivante. Il y a un seul changement. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, nous avons changé notre discours par rapport à l'avenir. C'est-à-dire, regardez partout dans le monde, peu importe la croyance des gens, tout le monde s'attend à ce que l'avenir va être meilleur que le passé. Mais regardez, en toutes les autres époques de l'histoire, les gens prenaient pour acquis que le futur serait simplement une répétition du passé. C'est pourquoi on appelle ces sociétés conservatrices et tout ça, rituelles, regarder vers le passé, aveuglement, etc. Parce que les gens pensaient que la leçon de l'avenir, c'était le passé. Donc, Baha'u'llah est le premier penseur, prophète, de percer cette illusion et de nous confronter avec la réalité crue que la seule façon d'évoluer vers un présent, un futur meilleur que le passé, c'est en cessant d'imiter le passé. Et le premier pas vers cela, c'est de changer notre anticipation, de changer notre discours. Maintenant, nous voyons des conférences mondiales sur l'élimination de la pauvreté, la condition de la femme. Je veux bien que le comportement des hommes n'a pas beaucoup changé, que les préjugés existent et tout, mais néanmoins, il y a au moins le fait que le discours a changé, et de façon radicale. C'est la première étape. Mais, si on reste là, on aura toujours le même futur, parce qu'on vient de prouver, logiquement, que la seule façon d'avoir un futur différent, c'est de changer la façon d'agir dans le présent, pas de changer nos discours à propos du futur. C'est ça que nous faisons la plupart du temps dans la formation. Nous nous compatissons, nous sommes, nous sommes complicites dans un discours où, en parlant d'un avenir différent du passé, nous pensons avoir accompli quelque chose. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux croyants, etc.? Parce que tout le monde veut un meilleur futur. Et ce n'est pas en parlant qu'on va l'avoir. Alors, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, je fais encore deux pas dans ma logique et puis nous allons conclure. Comme je dis, il y a binarité dans les relations humaines. Bref, cette binarité, c'est bon et mauvais, plaisant, déplaisant. Juste et injuste. C'est-à-dire, dans nos relations quotidiennes, les uns avec les autres, il y a un mélange de justice et d'injustice. Certains gens sont gentils avec nous, ils nous aident et tout ça, ils nous sourient, enfin, à la banque, n'importe où, n'est-ce pas? Et d'autres gens sont méchants, agressifs, etc. Donc, toutes nos vies, tous les jours, c'est un mélange de justice et d'injustice. Maintenant, répondre à l'amour et la justice pour l'amour et la justice n'a pas grand mérite. Comme Jésus a déjà dit il y a 2000 ans, même les assassins et les voleurs font autant. C'est-à-dire, bien traiter ses amis, les gens qui nous aiment, n'est pas une très grande valeur morale, parce que même les gens les plus immoraux font ça. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un traite, vous aime et vous traite bien avec vous, ben, c'est très difficile de ne pas traiter bien avec lui. Donc, le défi moral commence quand nous sommes face à l'injustice. La seule façon donc d'avoir une future différente du passé, c'est de changer la façon que nous réagissons quand nous sommes l'objet d'injustice. Alors, qu'est-ce que nous faisons habituellement? Habituellement, nous avons ce que nous appelons la réponse pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Donc maintenant, désormais, jusqu'à la fin de cette conférence, je me mets dans la situation où nous sommes confrontés d'une injustice. Okay? Donc je prends pour acquis que nous sommes dans une configuration quelconque où nous sommes confrontés d'une injustice. Petite ou grande, enfin, ça peut être une question de martyr pour la foi ou une question de quelqu'un qui vous a volé un sou. Enfin. OK? Nous sommes devant une injustice. Donc, oui, ça marche, merci. Donc, injustice, c'est le stimulus. C'est une agression. L'injustice, c'est une agression. C'est perçu comme une agression. C'est ressenti comme une agression. Alors, la première réponse, la réponse la plus spontanée, c'est de chercher la revanche. C'est-à-dire, la logique de la revanche est très simple. Vous avez utilisé votre volonté pour me faire souffrir. Moi, je réponds en vous faisant souffrir autant que vous m'avez fait souffrir. OK? Ça, c'est la revanche. Et est-ce que ce n'est pas la justice? Est-ce que ce n'est pas mon droit? Après tout, c'est vous l'agresseur. C'est vous qui m'avez insulté. C'est vous qui m'avez humilié. Donc, j'ai le droit maintenant, j'ai acquis le droit de vous faire souffrir autant que vous m'avez souffert. OK? Ça, c'est la réponse revanche. Alors, c'est évident que la réponse revanche ne fait, comme Abdelbaha dit, que de multiplier les injustices. D'accord, vous avez fait en premier, mais si on dit qu'on veut plus de justice que de l'injustice, on ne va jamais avoir la justice en faisant l'injustice. Donc, même si je suis l'objet d'une vraie injustice, je ne parle pas qu'on peut expliquer ça autrement, que vraiment, il ne voulait pas faire ça, je parle d'une vraie injustice. Le préjugé, l'oppression. OK? Alors, nous sommes devant l'injustice. Et si nous répondons à l'injustice en cherchant à commettre une injustice semblable à l'autre, il aura deux injustices. Et probablement, il va répondre aussi. Et puis, ça continue. Et voilà. On a répliqué le passé. C'est ce qu'on a fait. Donc, la seule façon de réagir à l'injustice, c'est d'agir de façon à créer la plus grande possibilité de justice possible. Alors, c'est ce que nous appelons la réponse unité. La réponse unité. La réponse unité est une combinaison d'amour et de justice. Il y a une sorte de continuum. Merci. Je m'excuse. C'est une espèce de continuum. C'est-à-dire, l'amour, c'est la merci, c'est la bienveillance, et la justice, c'est l'exercice du pouvoir dans l'attente de créer les conditions pour l'amour. Maintenant, donc il y a deux réponses qui sont inauthentiques à l'injustice. Une, c'est la revanche, l'autre, c'est de se laisser victimiser, n'est-ce pas? Donc la réponse victime est aussi inauthentique que la réponse revanche. OK? Et je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais la réponse victime est aussi une réponse pouvoir. C'est aussi une réponse pouvoir. C'est une sorte de manipulation. Je dis la réponse victime, je ne dis pas le fait d'être victime. Vous n'êtes pas responsable du fait d'être victime, vous êtes responsable de ce que vous faites avec cette expérience de victime. Si vous embrassez votre identité de victime, à ce moment-là, vous perpétuez l'injustice, n'est-ce pas? Après tout, même l'injustice envers vous-même est une injustice. Et on veut agir de façon à créer le plus possible le potentiel pour la justice. Alors, Abdu'l-Bahá nous dit très clairement comment faire ça. Il dit, dans la plupart du temps, il faut répondre à l'injustice par l'amour actif. Vous connaissez tous ces passages d'Abdu'l-Bahá où il dit que les gens vous maltraitent, qu'ils vous insultent, s'ils vous empoisonnent, vous leur donnez du miel, etc. Vous connaissez ces passages, ok? Malheureusement, je n'ai pas le temps de lire tout ça maintenant. Mais tous ces passages sont entre autres dans le Love, Power and Justice et aussi dans les autres documents. Mais enfin, ils sont dans les écrits aussi. Donc, Abdu'l-Bahá a dit que dans, si vous voulez, la réponse défaut à l'injustice, c'est d'opposer l'injustice avec un amour actif. Cependant, Abdu'l-Bahá nous explique, il y a certaines catégories qui n'est pas permis de traiter avec amour pur, parce que malheureusement pour ces personnes-là, ça augmente l'injustice. Il dit, ce sont des personnes qui ont des mobiles cachés, tels les tyrans, les voleurs et les menteurs. Il dit, il n'est pas permis, donc selon la justice divine, de traiter avec bienveillance les tyrans, les voleurs et les menteurs. Parce qu'il dit, si vous ne confrontez pas le menteur avec son mensonge, il va mentir davantage. Si vous ne confrontez pas le voleur avec son vol, il va voler davantage. Si vous n'opposez pas le tyran injuste, il va simplement être devenu de plus en plus tyrannique. C'est ça. Ouais.
Tu l'as difficulté à comprendre. Qu'est-ce qui rend...
Ben ça, c'est toute la vie. Ça, c'est toute la question, justement. N'est-ce pas? Il n'y a pas de formule. C'est-à-dire, voilà, ça soulève la question. C'était la prochaine chose que j'allais dire. Mais je veux juste constater que même Abdu'l-Bahá, qui était l'incarnation de l'amour, reconnaît qu'il y a des cas où la justice requiert une réponse active, comme dénoncer à la police, n'est-ce pas, si vous connaissez un abuseur, etc. Donc, tout ça, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement authentique. Le principe de base, le principe générique, c'est je cherche une réponse créatrice qui réduit tant soit peu la possibilité que cette injustice sera répétée dans l'avenir. Ça peut aller, comme je dis, d'une part, de répondre à l'injustice par l'amour actif, jusqu'à opposer, même physiquement, c'est-à-dire, si par exemple il y a un fou qui commence à tirer sur les enfants, mais mon devoir en tant que Bahaï, c'est de sacrifier même ma vie pour protéger les innocents, n'est-ce pas? Et si je dois tuer le type, mais je vais le tuer. C'est lui l'agresseur, n'est-ce pas? C'est lui le tyran. Ça, c'est un tyran. Alors, sans hésitation, sans autre pensée, parce que c'est lui qui a choisi de faire ça. Donc, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le contrôle sur ses actions, j'ai le contrôle sur mes actions. C'est pas moi qui a choisi de prendre un fusil et commencer à fusiller les enfants. J'ai le contrôle seulement sur mes actions, et puisque les enfants sont innocents, et l'autre est l'agresseur, le choix est très clair. Que tous les choix moraux soient aussi clairs que ça. Je dois arrêter le type par tous les moyens possibles, y compris de tuer. Mais ces conditions extrêmes n'arrivent pas tous les jours, n'est-ce pas? Comme je dis, les choix moraux sont en général beaucoup plus subtils que ça. Alors, je prétends que, encore une fois, la position défaut est l'amour. Autrement dit, si nous disons, bon, ok, je vais tester le type s'il a des mobiles cachés, comme Abdel Baha dit, et s'il n'a pas de mobile caché, s'il me satisfait qu'il est sincère, alors là, je vais le traiter avec amour. Mais tant qu'il n'a pas fait ses preuves, je vais le traiter avec justice, avec formalité et tout ça, en mode protection, comme on dit. Ok? Mais si on fait ça, combien de fois est-ce qu'on va finalement passer à l'amour, hein? Parce qu'on veut toujours trouver une raison de soupçonner ses mobiles, etc., etc., n'est-ce pas? Donc, c'est très clair des écrits que, comme je dis, la position défaut, ok, c'est l'amour. Mais si la réponse amour, donc ça amène la relation un pas plus loin, si par suite de cette réaction, nous avons des raisons évidentes et objectives que la personne a des mobiles cachés, qui nous a menti, qui nous a trompés, à ce moment-là, nous pouvons passer à un mode plutôt justice, n'est-ce pas? Mais toujours dans le même but. C'est-à-dire, même si c'était un menteur, nous l'avons traité avec amour, ce qui fait qu'il a menti encore. Mais quand même, nous avons maintenant agi de façon à découvrir qu'il est un menteur, ce qui nous permet maintenant d'agir avec justice et donc de réduire la possibilité que la justice est répétée dans l'avenir. Et là, on fait ses choix à chaque instant de sa vie. Abdel Baha a dit, un Bahaï est celui qui fait du bien à chaque être humain qu'il rencontre. Il dit pas qu'un Bahaï c'est un type qui fait partie de l'Assemblée nationale, qui est un beau parleur, etc., etc. Un Bahaï, c'est celui qui cherche activement à faire du bien à chaque personne qu'il rencontre, tous les jours. 7/24, ok? Alors, les ateliers cet après-midi vont être sur la réponse unité. Maintenant, nous avons développé, je veux juste dire un mot, nous avons développé dans le projet Authenticité un processus qu'on appelle le cycle vertueux. Le cycle vicieux étant le cycle de répondre de l'injustice par l'injustice et d'augmenter l'injustice, n'est-ce pas? La réponse revanche, la réponse pouvoir. Alors, le cercle vertueux est un processus à 6 étapes qui nous donne un outil pratique pour la génération de réponses unité. Encore une fois, il n'y a pas de formule. C'est la créativité, c'est une réponse créatrice. Il y a parfois des réponses minimales, mais il n'y a pas de réponse maximale. Est-ce que pour avoir trop d'amour, est-ce qu'on peut avoir trop de justice? On peut ne pas avoir assez d'amour et de justice, mais on ne peut pas en avoir trop. Donc, aussi valable que notre pensée ait pu être dans le passé, on peut toujours l'améliorer encore dans l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de ne pas être un obstacle à la justice. Il s'agit d'être un promoteur de la justice. Il faut être un unificateur, pas simplement ne pas être une cause de désunion. N'est-ce pas? Alors, je veux juste esquisser ces choses-là parce qu'on aura besoin dans les ateliers et puis j'ai terminé. Alors, c'est un processus à 6 étapes et l'étape 1, c'est examiner la réalité actuelle. Examiner la réalité actuelle. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, c'est les faits. Quelle est la situation? Alors, les faits, ça, on se tourne vers le passé pour comprendre le passé. Pas pour répondre le passé, mais pour le comprendre. Pour le comprendre. Pour savoir qu'est-ce qui se passait en fait. Ensuite, le deuxième c'est comprendre